Pourrions lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, verset 44. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. On peut noter là, dans ce verset 44, que cet homme, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Et le marchand, pour acquérir cette perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu contient sept paraboles qui représentent ce que on peut appeler les phases successives du royaume, de son début à sa fin, et dans une forme particulière, c'est pendant le rejet de son roi. Dans ce chapitre 13, au premier verset, nous pouvons lire « En ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. » La maison représente Israël. Et nous voyons que Christ, qui est rejeté, sort de la maison. Dans les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, il est démontré clairement que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est le Messie d'Israël. Et la démonstration en est faite par tous les miracles qu'il a opérés dans le pays d'Israël. Et nous savons dans les chapitres précédents que les pharisiens l'ont rejeté, et en attribuant ces miracles aux démons et sa puissance miraculeuse. Et à partir de ce moment-là, c'est un tournant déterminant dans la vie d'Israël, et Dieu tiendra compte dans la suite du rejet de son fils, mais surtout que les pharisiens ont attribué tous ces miracles à la puissance démoniaque. Dans Matthieu 13, si nous lisons, nous trouvons dans Matthieu 13 sept paraboles. du premier verset, si quelques jeunes prennent des notes, du premier verset au verset 9, nous avons la parabole du semeur. Après, du verset 10 au verset 17, nous avons les explications pourquoi le Seigneur parlait en parabole. À partir du verset 18 au verset 23, nous avons l'explication de la parabole du semeur. Du verset 24 au verset 30, nous avons la parabole du blé et de l'ivraie. Du verset 31 au verset 32, nous avons la parabole du grain de moutarde qui va devenir un grand arbre. Dans le verset 33, nous avons la parabole du levain dans la farine. Et à partir du, nous allons dire à partir du verset 36 jusqu'au verset 43, nous avons l'explication de la parole de l'ivraie. Alors c'est après la parabole du semeur, donc nous avons ces paraboles particulières du blé et de l'ivraie, du levain, du grain de moutarde qui devient un grand arbre, et la parabole du levain dans la farine. C'est-à-dire ces paraboles nous parlent prophétiquement de l'histoire du temps de l'Église à partir du temps apostolique jusqu'au temps actuel. C'est-à-dire, nous voyons l'introduction progressive du mal dans le royaume, dans sa manifestation extérieure. Et aujourd'hui, nous voyons le bas état de la chrétienté, où nous savons qu'il y a des mauvais hommes et même des incrédules qui ont été introduits, ainsi que des fausses doctrines. Si nous nous arrêtions à ces trois paraboles, nous pourrions à juste titre être tristes de l'évolution du royaume dans sa manifestation extérieure. Mais comme les deux paraboles que nous avons lues sont comme un soleil qui va venir éclairer une situation extrêmement triste, le mal qui gagne dans la chrétienté. Et alors, dans ce verset 44, nous voyons qu'un homme est venu à trouver dans un champ un trésor caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. C'est-à-dire que dans cette parabole du trésor dans le champ, nous voyons que le Seigneur a distingué à l'avance que dans ce monde pour lequel il s'est dépouillé de tout eh bien, se trouve un trésor. Un trésor pour lequel il a tout vendu pour acquérir d'abord ce champ et avoir ce trésor pour lui-même. Et alors, le mot trésor, un trésor, est composé toujours de différentes pièces. Un trésor est toujours composite. Il peut avoir des pièces d'or, il peut avoir des bijoux, il peut avoir des tableaux de maître, et que beaucoup de choses. Mais un trésor est composite, donc est composé ici, pour le Seigneur, d'individus. Et ce sont ces rachetés. Et nous voyons que dans cette parabole que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu 13, tellement à l'avance, il veut que nos yeux soient fixés sur ce qui est cher à son cœur. Dans ce monde, aujourd'hui, le Seigneur a un trésor pour lequel il est venu, il a tout vendu et il a acheté ce champ-là. Et ce trésor composite est donc composé de tous ces rachetés. Et cette parabole extraordinaire qui nous est donnée, il faut le répéter, il faut penser que le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, eh bien, il avait en vue d'acheter ce champ-là et d'avoir pour lui-même ce trésor composé de tous ses rachetés. Un trésor caché. Et un trésor est seulement un trésor. Dans la deuxième parabole que nous avons lue, nous voyons que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Nous voyons quand même qu'il y a une distinction à faire entre les deux paraboles. Comme nous l'avons dit, le trésor est de nature composite, composé donc de ces rachetés qui sont précieux aux yeux du Seigneur. Mais la beauté de la perle et la valeur de la perle aux yeux du marchand est dans son homogénéité et dans son unité. Ce n'est plus un trésor composé de rachetés précieux au cœur du Seigneur, mais la perle, elle est belle dans son unité, dans son homogénéité. Et donc nous voyons à travers cette deuxième parabole que le Seigneur, il voit ce trésor, mais c'est plus ce trésor, cette perle dans son unité. Nous sommes unis les uns aux autres dans le corps de Christ. Et à travers cette perle unique, nous voyons donc l'Église dans son unité. Non seulement le Seigneur, il a tout vendu pour nous acquérir un par un, mais il est venu aussi pour acquérir son assemblée, pour acquérir cette assemblée à si grand prix. Ensuite, la septième parabole, après c'est la parabole bien sûr du filet, hein, ce qui est appelé une seine, donc le filet pour attraper les poissons. Alors, une précision sur ce trésor et sur cette perle. Le monde autour de nous est dans l'incapacité de discerner ce trésor sur cette terre ou dans ce champ. Ce ne sont que les yeux de la foi, nos yeux, qui peuvent discerner aujourd'hui que dans ce monde, le Seigneur qui a tout vendu pour acquérir, eh bien, seuls les yeux de la foi peuvent discerner ce trésor, savoir qu'à côté de nous et disséminé sur cette terre, il y a d'autres rachetés, des rachetés qui sont aussi précieux au cœur du Seigneur. Mais c'est précieux, mais c'est racheté, si précieux, même si il y a cette évolution du mal, l'assemblée qui est devenue cette grande maison laissée à sa responsabilité, eh bien, il y a toujours cette unité. Et le Seigneur, il bâtit sa maison, mais il voit aussi cette maison, cette perle dans son unité et dans son homogénéité. Il ne faut pas être surpris du fait que la parole du chant avec le trésor qui est caché dans l'intérieur à l'intérieur de ce champ. Et la deuxième parabole quant à la perle qui nous parle d'unité, si nous lisons attentivement l'épître aux Éphésiens, nous voyons la même chose, c'est-à-dire, nous prenons l'épître aux Éphésiens, nous voyons que l'apôtre Paul, il parle de nos bénédictions que nous avons en Christ. Mais il commence par nos bénédictions individuelles. Et il nous dit, par exemple, dans le premier chapitre, que nous avons été élus en lui avant la fondation du monde, verset 4, que nous sommes maintenant saints et irréprochables devant lui en amour, que nous sommes adoptés pour lui, pour Dieu, par Jésus-Christ, que nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, etc. Nous voyons que l'apôtre Paul, il énumère les unes après les autres ces bénédictions que nous avons individuellement et personnellement, que tous ceux qui croient en Christ, ceux qui sont ses enfants, les enfants de Dieu, eh bien, voilà, nous sommes agréables dans le bien-aimé, nous sommes adoptés, on pourrait les relire. Et puis, au fur et à mesure que l'épître aux Éphésiens avance, nous voyons les bénédictions collectives, que nous sommes donc une habitation, nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Et nous pouvons faire le parallèle entre ce qui nous est dit dans Matthieu 13, le Seigneur avait en vue dans ce trésor chacun de nous individuellement, et dans la perle, il a pu voir à l'avance l'unité de son Église. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Épître aux Éphésiens, nous voyons exactement la même chose. L'apôtre Paul aborde d'abord nos bénédictions individuelles avant de passer aux bénédictions collectives. Alors, je voudrais souligner aussi peut-être un dernier point. C'est que le trésor est caché dans un champ. Et nous voyons que le Seigneur, il vend tout, et donc il achète le champ. Il achète le champ et le trésor qui est dans le champ. Alors, il y a des passages de l'Écriture qui nous disent que le Seigneur est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de ses rachetés, mais il est le Seigneur de tous. Et dans Josué, je crois que c'est au chapitre 3, il nous est dit qu'il est le Seigneur, prophétiquement, de toute la terre. Et en particulier aussi, on peut lire dans le psaume 2, verset 8, il nous est dit: « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre. » Nous voyons que le Seigneur, il est le Seigneur de ses rachetés, mais il est aussi le Seigneur de tous, il est le Seigneur de toute la terre, et nous savons que les nations, comme il nous est dit ici, seront son héritage, et la terre sera sa possession. Et aussi, dans Matthieu 28, il nous est dit que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et nous voyons que par l'œuvre de la croix, eh bien, le Seigneur, il a sans doute tout vendu, mais il a acheté ce champ-là. C'est-à-dire que non seulement nous sommes ses rachetés, mais maintenant, il est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de toute la terre. Et les nations seront son héritage. Et il entrera un jour dans son héritage quand il reviendra dans la deuxième phase de sa venue sur la terre avec les saints. Et donc nous voyons que dans cette parabole si précieuse, non seulement le Seigneur a tout vendu pour acquérir son trésor, mais il a acquis aussi ce champ-là, c'est-à-dire le ciel et la terre sont sa possession, et les nations seront sa possession. Et nous voyons toute l'étendue, ou une partie, quelque peu, l'étendue de l'œuvre de Christ à la croix. On peut dire que nous sommes ici dans ces paraboles, dans quelque chose qui est totalement inconcevable pour l'esprit humain. Et seule la foi peut comprendre que le Seigneur trouve aujourd'hui toutes les délices de son cœur dans son assemblée, dans cette perle de grand prix, dans ce trésor qu'il a devant ses yeux. Et c'est un sujet de méditation et d'admiration que ces paroles de l'Écriture, souvenons-nous que Christ a aimé l'assemblée et s'est donné lui-même pour elle.
Je voudrais revenir courtement sur un aspect que Michel a évoqué, sur ce côté du trésor caché dans un champ. Et puis, avec une question associée, mais s'il trouve un trésor caché dans un champ, pourquoi est-ce qu'il ne le sort pas et pourquoi il va pas, pourquoi il a besoin d'acheter le champ ? Pour les plus jeunes, juste simplement une précision. Ce qui est dans le champ appartient à celui à qui est le champ, tout simplement. Aujourd'hui, c'est encore pareil. La plupart des lois, dans nos pays en tout cas, vous trouvez quelque chose, un trésor quelconque dans une maison, dans n'importe quel endroit, que ce soit des choses trésors récents ou bien historiques, archéologiques, le propriétaire de l'endroit a des droits sur ce qui est dedans. A le premier les droits sur ce qui est dedans. Et en rapport avec ça, je voudrais lire en Matthieu 4, dans l'ordre de la tentation au désert, qu'est-ce que le diable prétend ? Au verset 8, le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu me rends hommage. » Autrement dit, le diable revendique la propriété de toutes ces choses. Et puis si nous lisons encore en Matthieu, au chapitre 12, où il y a ces versets 22 et suivants, où il y a ce débat avec les pharisiens sur la puissance du Seigneur chassant les démons qui est contestée. Ou au verset 28, il dit, « Si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il a lié l'homme fort et alors il pillera ses biens ? Alors là, on a une image qui est un peu différente. Il s'agit de piller les biens, de les lui prendre de force, donc l'avoir vaincu ailleurs. Là, dans Matthieu 13, acheter ce champ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, le Seigneur a donné, s'est donné lui-même pour acheter ce champ et avoir tous les droits sur ce champ, avec le trésor qui est caché dedans. Et en parallèle avec la deuxième parabole, ces perles, j'ai plus le détail en tête d'une histoire que j'avais lue de quelqu'un qui se passait début 1900 dans ces lieux-là, un Européen qui était installé en Somalie, par là-bas, et qui s'était lancé dans le commerce de perles. Région qui, à l'époque, était productrice de perles et qui avait, je ne me souviens plus dans quelles circonstances, rendu service à quelqu'un et, pour le remercier, la personne lui avait donné une perle. Et une perle qui, apparemment, était pas extraordinaire. Je ne me rappelle plus trop le détail. Je crois qu'elle était prise dans du nacre qui l'enrobait plus ou moins. Et puis, en montrant cette perle à un ami qui était connaisseur en perles, cet ami lui a dit, donne-moi cette perle. Et puis, il a emmené cette perle et un petit peu après, il est revenu et la lui a ramenée. Et il l'avait dégagée de tout ce qui l'a cachée au fond. Et là est apparue une perle qui était très belle. Et l'ami lui a dit, tu vois, tu lui as rendu service. Il a voulu te remercier. Mais en même temps te tester, est-ce que tu sauras apprécier ce que je te donne en retour, en remerciement ? La perle cachée. La perle où il faut être le connaisseur pour voir que derrière, tout ce qui peut la masquer, la ternir, mais il y a là une perle de grand prix. Le marchand de perles est quelqu'un qui connaît les perles et qui cherche des belles perles. Et qui sait reconnaître les belles perles, cachées. La perle, en quelque sorte, est cachée. Soit parce que celui qui l'avait n'en connaissait pas la valeur, soit parce que, voilà, elle n'était pas encore arrivée dans ses mains, dans les mains du marchand, qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de la voir. Mais l'œil du marchand sait reconnaître, voilà, la perle de grand prix. Celui qui a trouvé le trésor sait reconnaître, là, il y a un trésor qui vaut d'acheter, de tout donner pour ce champ. Et apprécier cette perle, apprécier ce trésor pour nous, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire spontanément. Ce n'est même pas parce que nous avons la vie que nous sommes brutalement, du jour au lendemain, là, un claquement de doigts, devenus capables d'apprécier ce trésor. Il nous faut rentrer dans ces choses-là. Il faut que le Seigneur forme notre cœur, notre conscience, notre regard, pour savoir reconnaître derrière ce qui, aux yeux de l'homme sans Dieu de toute façon, mais même à nos yeux de croyants jeunes dans la foi ou peu affermis, ne nous est pas visible. Nous devons apprendre à reconnaître là, cela, c'est un trésor aux yeux du Seigneur. Cela, c'est une perle de grand prix aux yeux du Seigneur. Cela, dont nous ne voyons que des parties, que nous ne voyons que des parties qui ne sont peut-être pas toutes encourageante, c'est le trésor, c'est la perle pour laquelle il a donné tout ce qu'il avait. Nous avons besoin d'apprendre à ses pieds, d'apprendre avec lui à voir ces choses comme lui les voit. C'est tout un chemin. Et c'est tout un chemin où dans lequel il veut nous conduire. Dans lequel il veut nous conduire, dans lequel il veut nous former. Et où nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup de joie à trouver. Et puis un dernier point, au verset 51 et suivant, 51-52, le Seigneur s'adresse aux disciples. On peut dire qu'il y a une huitième parabole dans ce verset. On ne la compte en général pas dans les paraboles du royaume, mais on peut l'y ajouter comme celle de plus, le 7 plus 1 qui donne 8, quoi. Il leur dit, c'est pour cela que tout scribe... Jésus leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Ils leur disent, oui, Seigneur. Et il leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Quelle question? Avez-vous compris toutes ces choses? Et les disciples répondent, oui. Oui, sincèrement, ils pensaient avoir compris. Au fond, avaient-ils réellement compris? Non, la croix était encore devant. Ils ne pouvaient pas encore avoir compris vraiment. Mais ils pensaient avoir compris. Et le Seigneur ne leur dit pas, non, vous n'avez pas compris. Attendez, vous dites que vous avez compris. Non, il ne leur dit pas ça. Il leur dit autre chose. Il leur prend cette image du scribe. Ces hommes versés dans la loi de Moïse. Mais voilà un scribe, quelqu'un qui connaît la loi de Moïse, qui a été fait disciple. Notons qu'il n'est pas dit qu'il est devenu disciple. Non, il a été fait, c'est Dieu qui a fait de lui, qui a agi dans son cœur, pour en faire un disciple du royaume. Donc quelqu'un qui est inclus dans le royaume. J'utilise un mot avec des bémols, avec réserve, mais qui est initié en quelque sorte, que Dieu a introduit dans cette sphère qui est celle du royaume. Donc il rentre dans ce domaine où il y a ces choses que Dieu révèle maintenant en Christ. Et alors ce scribe qui a été fait disciple du royaume, c'est une responsabilité qui est placée devant lui, c'est surtout un service qui lui est mis devant lui. Il est comme un maître de maison, donc quelqu'un qui a la gestion de quelque chose, qui a l'autorité sur quelque chose, et qui de ce quelque chose va sortir des choses nouvelles et des choses vieilles. Les choses vieilles, on peut les rattacher à ce qu'il était, scribe, versé dans la loi de Moïse. Les choses nouvelles, c'est celles qui sont là devant lui, ce trésor, cette perle de grand prix. On peut résumer comme exemple ce que le Seigneur dit là avec un nom. Est-ce qu'on n'a pas là ce qu'est devenu l'apôtre Paul? Pharisien, quant à la loi pharisien, quant au zèle tellement pharisien qu'il a persécuté l'assemblée, connaissant parfaitement la loi, et puis que Dieu a fait disciple du royaume en l'arrêtant sur le chemin de Damas. Et là, lui a confié un service. Annoncer ces choses nouvelles et ces choses vieilles. On peut penser à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la même chose. Quelqu'un qui visiblement connaissait très bien la loi, qui connaissait très bien le Lévitique, qui connaissait très bien le poids, l'emprise, la place qu'avaient toutes ces choses de l'Ancien Testament, de la loi, pour le Juif. Et puis amené à présenter ces choses nouvelles, comment tout cela était figure de ce qui est dans le domaine de l'Assemblée, conséquence de l'œuvre du Seigneur. Et ce côté-là, je pense, parce qu'il parlait des trésors, le maître qui sort de son, qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. On a ce trésor qui revient sous un autre aspect. Si dans la parabole du verset 44, le trésor parle plutôt de personnes, au verset 52, ce trésor, c'est plutôt l'ensemble de ce que Dieu a voulu révéler de lui-même. Voilà des disciples. Voilà ce qui est placé devant les disciples. Vous êtes, je vous ai choisi, je vous ai fait entrer dans le royaume. Maintenant, vous avez un service. Sortir de votre trésor des choses nouvelles, des choses vieilles. Faire connaître ce qui est caché à l'homme naturel. Faire connaître ce qui était caché quand vous étiez des petits-enfants dans la foi. Faire connaître ce que moi, Seigneur Jésus, j'ai vu caché et pourquoi j'ai donné toute ma vie, tout ce que j'avais, pourquoi le Seigneur a donné toute sa vie. On a quelque chose là de merveilleux. Comment ces choses cachées révélées. Des choses cachées qui sont révélées et qui nous sont révélées.
Nous allons lire dans Ruth au chapitre 4, juste ce verset 6. Et celui, Ruth chapitre 4, verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Use-toi de mon droit de rachat. Car je ne puis racheter. L'histoire de Ruth, revenant avec sa belle-mère dans des champs de Moab vers Israël, et je pense aussi une de ces illustrations de cette parabole ou de ces deux paraboles qui ont été évoquées ici au chapitre 13 de Matthieu, où d'un côté nous voyons une femme veuve qui n'a plus de patrie, qui vient dans une ville qu'elle ne connaît pas, où elle n'avait plus d'espérance aussi. Sa belle-mère lui avait dit, même si aujourd'hui je dois avoir un enfant, pour toi je ne peux plus rien faire. Une femme qui n'avait certainement pas de la valeur aux yeux du commun des mortels, des gens de Bethléem qui la voyaient, déjà étrangère, donc elle n'avait même pas d'espérance, il avait été interdit de faire entrer de ces gens-là dans la congrégation de l'Éternel. Donc déjà qu'elle soit dans la ville, bon, on la tolérait. Et voilà que elle fait ce parcours. Et après, il y a quelqu'un qui la remarque, Boaz, qui la remarque et qui, comme on vient de le dire, ayant apprécié cette personne, ayant vu de la valeur à cette personne, mais là je m'arrête net pour dire que, en réalité, c'est Boaz qui donne de la valeur à cette femme. C'est une faible image de ce que le Seigneur a fait de nous. Nous n'avions aucune valeur. C'est le Seigneur qui nous donne de la valeur parce qu'il nous aime, parce qu'il trouve sa joie à nous faire du bien. Et donc Boaz veut prendre cette femme, mais il y a une... On nous a parlé des lois qui sont là, qui sont établies. Il faut faire des choses. Et donc, il y a quelqu'un qui vient avant. Et donc, celui qui a le droit de rachat avant Boaz est appelé, interpellé sur la place de la ville, la porte, et on lui pose la question. Au début, il dit, je rachèterai. Verset 4, la fin. Mais on lui montre l'implication de c'est quoi racheter. On lui montre qu'il n'achète pas seulement de la main de Naomi. Parce qu'en fait, s'il s'arrêtait seulement à la main de Naomi, bon, on va dire oui, bon, Naomi est déclinante. Dans quelques années, elle va mourir. Bref, donc le champ va me revenir. J'aurai le bénéfice. On lui dit non, t'arrêtes pas là. Il y a une personne qui est, par, encore une fois, grâce, après Naomi. Et cette personne, c'est Ruth. Il est précisé même, la Moabite. Alors il se dit, non. Non, parce que moi, je vais perdre. Et combien, justement, pour nous, le Seigneur a accepté cette perte-là. Cet homme dont le nom n'est pas donné, allait perdre... Dans la loi du Lévirat, elle est certainement donnée au premier-né ou à la descendance de Ruth son nom, donc le nom de son ancien mari, pour faire perdurer l'héritage de quelqu'un sur Israël. Et certainement aussi, il se disait, oui, ben c'est quelqu'un, voilà quoi, je vais perdre. Bref, pour faire simple, je vais perdre. Et donc là, il dit non. C'est cette phrase-là qui, quand Michel parlait justement, « De peur que je ne ruine mon héritage. » Le Seigneur a accepté ruiner son héritage pour nous. Et combien la reconnaissance de nos cœurs lui est due pour nous qui n'avions aucune valeur. On peut toujours le répéter, accepter, tout quitter, venir et payer pour que nous, en fin de compte, nous ayons du prix. Et combien il est digne de notre louange.
Très rapidement, j'avais encore un cœur de partager une pensée peut-être pour les plus jeunes. On va faire vite parce que on doit avoir faim les uns les autres. Dans cette parabole, on a cette notion de la perle, et Michel l'a rappelé, de la perle qui est associée à la notion d'unité. Et on peut se dire, mais autant un trésor, on voit à peu près, hein, l'effet de, ça a été rappelé, de multiples choses à l'intérieur, les pièces, les bijoux, enfin plein de choses, et la perle représente cette notion d'unité. Mais pourquoi? Et j'incite les plus jeunes à... En cela, la parole de Dieu est extraordinaire et les paraboles que le Seigneur partage avec nous sont extraordinaires. C'est que il partage la pensée, sa pensée divine, ça a été fait il y a plus de 2000 ans. Si on le lit aujourd'hui, c'est encore d'application. Mais de manière tout aussi nette. Pour les plus jeunes, le business des perles existe toujours aujourd'hui. Il y a toujours des marchands, c'est leur business. Ils se nourrissent de ça, c'est leur travail. Et on l'a rappelé, le marchand, c'est un expert, il sait de quoi il parle. Et si on fait le parallèle, Michel nous l'a rappelé, la perle et l'unité, ben on peut faire un autre parallèle. Regardons un tout petit peu les diamantaires, comment ils travaillent. Ils cherchent un diamant, ils le trouvent. Le diamant en tant que tel, vu comme ça, n'a aucune valeur. Pour qu'il puisse avoir une valeur marchande, pour qu'il puisse aller sur le système marchand du diamant, il faut le tailler. Si on n'est pas beau, et on ne l'achète pas. Il faut le tailler, après on regarde à la lumière, et puis il y a toutes ses facettes. Mais la perle, les marchands qui vont chercher une perle, est-ce qu'une perle peut être taillée? Tu tailles ta perle, elle n'a plus aucune valeur. Et ça, le marchand le sait. Et c'est en cela que les paraboles du Seigneur sont extraordinaires, c'est que si on cherche un peu et on prend le temps d'écouter, on trouve la pensée divine, celle du Seigneur. Il a vu cette perle de grand prix, et cette perle, on ne peut pas la tailler. Elle n'a de valeur pour le Seigneur que parce qu'il y a cette unité et qu'elle est unique à ses yeux. Et qu'est-ce qui donne la valeur à cette perle? C'est la valeur que donne le marchand à cette perle. Et ça, cela nous encourage parce qu'il voit son Église comme cette perle de grand prix, et il voit justement dans cette perle cette unité.
Pareil, peut-être pour les plus jeunes, je relirai le verset 44, parce qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Mais juste en essayant d'utiliser d'autres expressions de la parole pour dire de quoi nous parle le verset 44. Alors, on nous parle du royaume des cieux. Alors, pour un royaume, il faut un roi, c'est notre Dieu, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Et il faut des sujets. Et ça, c'est semblable à un trésor. Le trésor, c'est nous. On a de la valeur pour Dieu, on a de la valeur pour notre Seigneur. Il nous a cachés. On peut dire qu'il nous a mis à part. Il a construit une haie de protection. Il prend soin de nous. Dans un champ. Le champ, c'est un endroit où on cultive. Mais la parole aussi, elle utilise le mot de désert. On n'y fait plus faire grand-chose dedans. C'est ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Un homme, c'est le Seigneur, cet homme. Après l'avoir trouvé. Alors pour avoir trouvé ce trésor, il a dû venir dans le monde. Il est venu, il s'est fait homme, il est venu nous chercher. Et là, il nous a mis à part, il nous a cachés. Et qu'est-ce que ça a produit dans le cœur de notre Seigneur? De la joie, une grande joie. Et pour ça, il a dû s'en aller. Là, il y a des passages dans Jean qui nous parlent très bien de ça. Il a dû cette souffrance qui a été pour lui. Il est passé devant nous, il est allé jusqu'à la croix, on l'en a déjà dit, et il nous a rachetés. Il nous a achetés.
Première strophe du 170. 170, la première strophe.
Yeah.